Je dirais plutôt que c'est une décision politique. Parce que tout d'abord, cette décision ne va pas automatiquement résoudre dans une enquête, une nouvelle enquête contre le président Zuma pour les accusations d'il y a déjà 20 ans à la suite de l'affaire de l'achat des grands équipements militaires, d'ailleurs dans un volume de 10 000 millions d'euros dans le temps. C'est un peu technique et peut-être difficile à comprendre. Il s'agit simplement que la Cour a dit que la décision du procurateur de la République en 2009 de ne plus poursuivre les accusations de Zuma, que cette décision aurait été irrationnelle et mal fondée. C'est-à-dire c'est la décision du procureur de la République qui a été mise en cause. Et cela ne va pas automatiquement provoquer une nouvelle enquête. Il se peut que simplement le procureur de la République accepte le jugement et se dise « Bon d'accord, voilà, on a fait une erreur, mais nous n'avons aucune obligation en droit de rouvrir ce cas qui traîne déjà depuis 20 ans. »
Et qui perd, qui gagne ?
Bon, pour la réputation politique de Zuma, c'est encore une blessure, mais je dirais que la grande majorité des électeurs, du peuple, qui voient en Zuma un espèce d'héros populaire, un homme qui n'a jamais fréquenté une école, qui n'a jamais reçu une instruction formelle, et qui a fait une carrière exceptionnelle, ayant été président de la République pour les derniers 7 ans, que cet homme, évidemment, il a fait ennemi des élites, des gens riches et des gens éduqués. Et d'ailleurs, le chef de l'opposition, M. Maïman, est un peu le garçon de la fortune, quelqu'un qui n'a jamais manqué aucune bonne opportunité pour suivre des bonnes éducations et pour devenir un personnage très raffiné. Alors pour cette grande majorité des électeurs, je pense que ce jugement ne va pas les impressionner. Ça passera, ça fera des titres dans les journaux, mais il n'y aura pas beaucoup d'influence dans la préparation des élections municipales d'ici à quelques semaines. Bon, il faut s'attendre si jamais le procureur de la République remettra cette affaire, ce jugement en recours à la Cour suprême, pourra très bien prendre une interprétation totalement différente.
Mais le président Zuma lui-même, il n'est pas pauvre, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup enrichi.
C'est ce que ses ennemis nous racontent, et pas mal de journaux, mais pas tous les journaux. On en fait des titres et des scandales, mais personne n'a jamais prouvé que lui, il aurait des richesses cachées. Il y a des associés de Zuma, surtout des gens d'affaires, qui définitivement se sont enrichis à travers des opportunités qui leur ont été offertes par l'État et possiblement à travers l'influence de Zuma. Mais une richesse personnelle de Zuma, personnellement, moi je m'en doute un peu parce que même ce petit château traditionnel africain qu'il s'est fait construire, l'affaire de Nkandla, c'est un petit village africain à l'intérieur du pays où il s'est fait construire quelques maisons traditionnelles d'ailleurs. Ça ne représente pas une richesse. Ce sont des bâtiments très mal faits qui auront encore beaucoup de coûts pour le maintien, mais ils ne résultent pas du tout dans du canton, dans la poche de Zuma.
C'est une affaire sans enjeu, vous voulez dire ?
Zuma, je pense, sa peur personnelle, c'est que les persécutions criminelles pourront revenir après qu'il termine son terme, d'ici à 2 ans, et qu'il sera peut-être dans des difficultés, même financières, parce que comme pension d'État, il ne recevra pas des richesses. Et contraire aux autres anciens présidents dans l'Afrique du Sud, qui ont une résidence officielle payée par l'État, lui, il a choisi d'essayer de reconstituer et de refaire et d'agrandir l'endroit où il a vécu comme jeune homme, un petit village traditionnel. Et ça coûtera beaucoup le maintien de cet endroit. Alors il faudra encore voir comment l'Afrique du Sud va régler la succession de Zuma pour éviter qu'il s'attache peut-être à sa position, qu'il essaye de suivre le mauvais exemple d'autres présidents en Afrique, de faire changer la constitution pour faire un troisième et peut-être un quatrième terme.
Ça peut lui tenter ?
Il y a eu dans le passé des tentatives un peu discrètes pour voir quelles seraient les formalités, quelles seraient les procédures légales pour une réforme de la Constitution. À ce moment-ci, l'interprétation en Afrique du Sud, c'est qu'il va plutôt favoriser une présidence par sa femme divorcée, Madame Dlamini Zuma, qui était jusqu'à présent la présidente de la Commission de l'Union africaine, et qui vient de retourner en Afrique du Sud il y a quelques semaines, et qui il nous paraît qu'il serait plutôt qu'il y aura plutôt une loyauté envers son mari, et qui empêchera enfin des politiques de vengeance. Il y a du côté de l'opposition et du côté de la faction de l'ANC qui appuyait dans le passé le Thabo Mbeki et qui s'oppose à la faction de Zuma, il y a des tendances de vouloir le faire payer pour avoir pu prendre le pouvoir en 2009. Et d'ailleurs, cette décision aujourd'hui de la Cour suprême s'intègre dans ces stratégies. L'arrivée de Zuma au pouvoir en 2009 avait beaucoup à faire avec les accusations formelles du procurateur de la République. Et il y avait la tendance ou la faction de Thabo Mbeki qui essaie à tout coup que cette investigation de crime continuerait pour empêcher Zuma de devenir un candidat pour la présidence, un candidat de président de la République. En tant que du côté de Zuma, il y avait pas mal de gens qui ont influencé aussi les officiers du procureur de la République pour que les accusations soient laissées tomber, pour que l'investigation s'arrête. Et voilà, c'est cette tendance qui a gagné dans le temps, en 2009. Et ainsi, la porte pour la présidence s'est ouverte pour Zuma, qui d'ailleurs, évidemment, a eu l'appui de la majorité des électeurs. Et ainsi, de revenir à cette situation, maintenant, à travers une procédure légale qui essaye de déclarer nul et sans effet la décision d'arrêter l'investigation contre Zuma, ça fera peur. Ça fera peur aux gens de Zuma qu'en vérité, à la fin du terme du président Zuma, il y aura des actes de vengeance.
Si vous observez le comportement de M. Zuma, est-ce que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la ligne droite de l'héritage tracé par Mandela?
Difficile à dire parce que l'ANC a toujours eu des factions. Et Mandela n'était pas du tout représentant de la faction importante dans l'ANC, la faction majoritaire de l'ANC, qui était toute influente, c'était la faction de Oliver Tambo, qui était le président en exil, qui était un allié très proche de l'Union soviétique et des pays satellites de l'Union soviétique, en tant que Mandela était sous ce que, dans ces termes idéologiques, dans le temps, on aurait caractérisé comme un social-démocrate ou un revanchiste. Ainsi, c'était en raison du tremblement de l'Union soviétique à la fin des années 80, que quand Mandela a été libéré en 91-92, que l'ANC a accepté qu'il devrait devenir le premier candidat du pays et devenir le président, le premier président de la nouvelle Afrique du Sud. C'était un succès formidable, évidemment, parce qu'il est devenu un héros de l'Afrique. C'est quelqu'un qui est absolument respecté globalement. Mais ça ne veut pas signifier que les factions les plus importantes du parti soient toujours d'accord avec la politique de Mandela. Il y a pas mal de gens, y inclus son ancienne épouse, Winnie Mandela, qui l'ont accusé comme quelqu'un qui aurait vendu les intérêts des travailleurs, les intérêts des pauvres au capitalisme. Et c'est ainsi que l'Afrique du Sud s'est intégrée dans le monde occidental et qu'il est devenu un partenaire fiable des États-Unis et de l'Europe. plutôt que de l'Est. C'est Zuma qui reprend la majorité dans le parti, qui a satisfait les membres et les cadres traditionnellement liés à un projet plutôt socialiste, un projet plutôt de gauche. Maintenant, c'est de voir dans l'avenir le vice-président actuel de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Oui, lui, il suit très étroitement la tradition de Nelson Mandela, d'une ouverture du marché libre et l'intégration de l'Afrique du Sud dans les intérêts des grands pays de l'hémisphère nord, des grands pays capitalistes. Mais il nous paraît que ce ne sera pas Cyril Ramaphosa qui apportera la victoire, la course pour la présidence d'ici à 2 ans.